En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
L'Académie des sciences morales et politiques a initié, sous la direction du juriste Roland Drago, un groupe de travail pour réfléchir aux autorités administratives indépendantes. Ce groupe a invité, le 27 novembre 2007, le médiateur de la République, M. Jean-Paul Delevoye, à évoquer son travail au sein de cette fonction. Le médiateur de la République se positionne en effet comme une autorité indépendante. Il est chargé d'apporter une réponse aux nombreuses questions relatives à l'emprise de l'administration dans la vie des citoyens. Retrouvons-le en salle des séances.
Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier, d'abord permettez-moi de dire tout l'honneur que je ressens d'être invité à réfléchir avec vous sur les autorités indépendantes ou les autorités administratives indépendantes. Et en même temps, peut-être, avant de vous répondre de façon peut-être plus précise aux questions que vous avez posées, de vous dire aujourd'hui quelles sont les interrogations qu'en tant que médiateur, et donc au cœur d'un poste d'observation de la société, les interrogations lourdes que je pose. Nous voyons bien qu'aujourd'hui, et dans l'ensemble de nos sociétés dites modernes, il y a un rapport nouveau qui est en train de s'installer entre le collectif et l'individu. Qu'il y a une problématique sociétale nouvelle, extrêmement préoccupante, à laquelle nous devons être attentifs, c'est que dans l'ensemble des débats politiques auxquels nous avons assisté depuis ces 40 dernières années, il y avait un débat entre l'économique et le social, les uns estimant que c'était la réussite économique qui faisait le social et les autres l'inverse, et qu'on a complètement négligé ce qui, dans les politiques publiques, devait conforter le partage des valeurs qui fait que pourquoi vivons-nous ensemble, quelles sont les valeurs que nous partageons. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai lancé toute une réflexion sur des études qui sont quels sont les effets comportementaux des politiques publiques. Pourquoi j'aborde ce sujet ? Parce que nous sommes confrontés à une évolution de nos institutions que je crois extrêmement préoccupante. C'est que nos institutions de la République, qui dans leur perception par le citoyen, doivent être porteurs de valeurs, ne sont aujourd'hui regardées qu'au niveau des prestations de services qu'elles apportent, et que nos citoyens ou nos concitoyens sont aujourd'hui des consommateurs de services publics, et que l'école garant de l'égalité pour tous n'est plus que la bonne ou la mauvaise école, que l'hôpital garant de la santé pour tous n'est plus que le bon ou le mauvais hôpital, et que l'on voit bien que ce recul par rapport à l'acceptation des devoirs est en train de créer une consommation de droits au point de revendiquer le droit, de contester le droit. Et l'on voit que toutes celles et ceux qui seront porteurs d'une autorité quelconque se verront contester dans la légalité de cette autorité par rapport à la légitimité de la contestation. Tu n'as pas le droit de conduire sans permis, j'ai le droit de nourrir ma famille. Tu n'as pas le droit de frapper sur ta femme, je suis maître chez moi. Et l'on voit bien que le niveau de confiance dans les institutions fera que l'on oscillera en permanence entre la force du droit que l'on acceptera ou le droit à la force que l'on revendiquera. Et que notre société d'aujourd'hui, me semble-t-il, a un équilibre extrêmement préoccupant dans le dialogue institutionnel ou dans la violence. Et que paradoxalement, le recul de la morale individuelle crée une formidable attente de la loi, que le recul de la discipline individuelle et de la régulation individuelle fait que l'on met en avant la légitimité de sa contestation au mépris de la légalité de la décision qui vous est imposée, et que c'est quelque chose qui aujourd'hui pose un vrai débat, car la faiblesse du politique crée la force du juge, et que souvent un certain nombre de politiques sont créés par la jurisprudence et par l'absence de débat. Et que si nous voulons éviter que, dans la régulation pour le droit, l'Europe, par exemple, ne soit qu'un marché juridique où on va récupérer des droits qui sont contestés sur le plan national, nous risquons là d'avoir quelque chose d'extrêmement préoccupant. Et là, les autorités indépendantes sont-elles un palliatif à l'insuffisance du pouvoir ? Est-ce que c'est une suspicion du pouvoir ? Sont-elles au contraire des outils de régulation extrêmement important, l'on voit bien que ces questions-là ne sont pas neutres. C'est d'autant plus intéressant les travaux que vous menez que les autorités indépendantes, par leur multiplication, sont en train aujourd'hui d'engendrer une banalisation préoccupante. C'est d'autant plus préoccupant que sous le même vocable se cachent des outils juridiques extrêmement différents et qui sont mal identifiés. Et que l'on voit bien qu'il est difficile d'appréhender dans sa globalité, dans son uniformité, toute une série d'autorités indépendantes qui ne sont pas identiques par leur pouvoir, par leurs moyens, par leur spécificité, par leur composition. Est-ce qu'il faut une collégialité ou est-ce que, comme le médiateur de la République, c'est une institution personnalisée, est-ce que c'est les pouvoirs que vous évoquez sont toujours aussi tout à fait intéressants, puisque l'on voit bien que certaines autorités ont un pouvoir de sanction pénale, d'autres un pouvoir d'injonction, d'autres un pouvoir de recommandation. Nous pourrions, et si vous le voulez bien, faire cette analyse sur la problématique des pouvoirs. Le nombre a été aussi une surprise quand je parle de banalisation, puisque le Conseil d'État avait recensé à l'époque 36 autorités indépendantes, l'Office d'évaluation parlementaire auquel vous faites référence est 39. Et l'on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi les débats parlementaires, où l'on voit souvent que quand il y a un problème de relation entre administrés et administration, entre citoyens et pouvoir politique, eh bien, on cherche à mettre un médiateur. Comme si c'était un moyen d'apporter une réponse à un vrai sujet de société, c'est comment aujourd'hui concilier la gouvernance collective et l'exigence individuelle. Sujet qui fait que nous avons vu apparaître toute une série dans les débats. Heureusement que ça n'a pas été jusqu'au bout. On voulait mettre un médiateur pour les chambres de commerce. On a vu à un moment donné médiateur de la présence postale, de la poste. Enfin bon. Le quatrième élément peut-être, c'est la définition du Conseil d'État, qui indique que c'est un organe administratif. J'ai une première interrogation, puisque lors de la naissance du médiateur, déjà le débat législatif existait entre est-ce que le médiateur est une autorité administrative indépendante ou est-ce que le médiateur est une autorité indépendante. Et nous avons estimé que nous étions une autorité indépendante, puisque nos avis ne sont pas soumis à contentieux administratifs, même si le Conseil d'État estimait que c'était son rôle à lui d'être le régulateur des décisions administratives. C'est un premier sujet sur lequel il faut que nous y réfléchissions, car si c'est un organe administratif, est-ce que c'est le prolongement naturel d'une administration ? Et l'administration est-elle le prolongement naturel d'un pouvoir politique ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un organe totalement indépendant d'un pouvoir politique, d'un pouvoir administratif, d'un pouvoir consumériste, d'un pouvoir civique, qui est au cœur de ses intérêts? Et l'on voit bien que s'il y a, me semble-t-il, dans le XXIe siècle, un moment où les États sont trop petits pour les enjeux mondiaux et trop grands pour les enjeux locaux, on voit bien que la régulation par le droit va être tout à fait prédominante. Et donc l'on voit bien que la crédibilité passera probablement par la distanciation qu'il y aura par rapport à un pouvoir quel qu'il soit. On voit bien que les ONG sont quelquefois suspectes par rapport à des pouvoirs consuméristes, que les organisations internationales sont par rapport à leurs sources de financement, etc., etc. Donc c'est toute une série de sujets qui déjà classent un certain nombre d'autorités administrative indépendante ou autorité indépendante. En tout cas, en tant que médiateur, nous revendiquons le fait que nous sommes autorité indépendante. Même si, on a dans le débat personnalisation-collégialité, on voit bien que l'indépendance la plus difficile à conquérir, à maintenir, à préserver, à développer, c'est d'abord l'indépendance vis-à-vis de soi-même, de ses propres convictions, de ses propres amitiés, et que c'est quelque chose qui peut être éventuellement amélioré par la collégialité, ou tout au moins par un certain nombre de procédures. Si vous le souhaitez, nous pourrions évoquer celles que j'ai mises en place au sein de la médiature. Si l'on y réfléchit, est-ce que les autorités indépendantes sont un mode nouveau d'action de l'État? Ou est-ce que ce sont des points d'équilibre entre les exigences de la société au travers des expressions individuelles et des pilotages collectifs que peuvent être l'État, voire même le niveau européen? Ça pose un problème, évidemment, de légitimité de la création. Est-ce que la création a été faite par une opportunité? Est-ce que ça a été fait par, par un besoin. C'est intéressant d'ailleurs que, si je regarde la médiature, la philosophie de la médiature ou l'ombudsman sur le plan international oscille entre deux philosophies, protecteur du citoyen dans les pays du Nord, défenseur du peuple dans les pays du Sud, alors que la France a choisi médiation, qui est donc point d'équilibre. Dans la commission Balladur, je souhaitais faire évoluer cela vers le défenseur du peuple. On voit d'ailleurs que le passage de médiation à défenseur est une évolution sémantique qui est loin d'être négligeable. Que la médiation est un point d'équilibre, défenseur est un point de défense. Et donc c'est quelque chose qui mérite d'être analysé. C'est d'autant plus important que l'on voit bien que dans la mécanique temporelle, je crois que la vraie bataille du XXIe siècle n'est pas la bataille de l'espace, c'est la bataille du temps. Quel sens donner au temps dans les politiques publiques, mais aussi le temps politique, la décision politique ne peut plus s'appliquer s'il n'y a pas eu un débat préalable et si ce débat n'a pas été assis sur une cause. On voit donc que le temps politique passera par des lieux de médiation politique, de sensibilisation et de pédagogie des enjeux. Mais on voit bien que le temps judiciaire va devoir aussi mettre en place une préparation, la rupture du dialogue ou l'échec du dialogue ne pourra pas se transformer immédiatement en consommation judiciaire. Et on voit bien que nos tribunaux sont aujourd'hui absorbés par des conflits de moins de 500 euros pour les tribunaux d'instance et que la Commission européenne a aujourd'hui 90 000 dossiers pendants, dont deux tiers ne relèvent pas de cette commission. On voit bien que donc cet équilibre entre dialogue et conflit fait qu'il y a un besoin de régulation que peuvent représenter quelquefois les autorités indépendantes, mais qui doivent être absolument, assis dans l'opinion et dans l'administration comme légitimes dans leur capacité de régulation. Il s'agit donc ni d'un contre-pouvoir, mais peut-être d'un problématique de régulation. Deuxième élément, ce qui paraît intéressant au travers de l'observation que je ressens de la médiature, et qui est une question de fond, et qui justifie peut-être l'autorité indépendante que je suis, c'est que la question que nous nous posons en permanence, c'est d'être ni procureur de l'administration, ni défenseur du peuple, c'est de se dire, c'est la loi, mais est-ce que l'application de la loi est juste ? Et nous nous apercevons que, moi qui exerçais des responsabilités de pouvoir politique et de pouvoir administratif, jamais je ne me suis intéressé à l'application concrète des décisions que je prenais. Et l'on voit bien que par rapport à l'industriel, qui en permanence a une lecture sur l'évolution, la sensibilité de sa clientèle, sur la qualité de son produit, le politique, l'administration française estime que parce qu'elle a un pouvoir, elle doit l'appliquer, et que donc on est, me semble-t-il, à contre-courant d'une attente de la société. La société a soif d'équité et soif de justice, et la société refuse aujourd'hui l'arbitraire. Plus personne n'accepte en médecine qu'en tant que patient, le médecin ne vienne pas contractualiser avec vous la maladie dont vous souffrez, les choix thérapeutiques qui vous sont proposés, et d'essayer de susciter votre adhésion aux opérations qu'il va vous proposer, pour que cette confiance soit un facteur de réussite du choix thérapeutique qu'il a accompli. L'administration n'a pas, ni même le politique, n'a pas cette capacité de pédagogie et de contractualisation de confiance. On est dans un pouvoir d'arbitraire et c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant, d'autant plus que je suis convaincu que les révoltes naissent plus des injustices que des misères. Et que ce sentiment d'inéquité est pour moi quelque chose de très préoccupant, d'autant plus que le regard qu'il y a par rapport à la loi, c'est qu'aujourd'hui, la lecture que nous en avons, c'est que la loi qui est censée protéger le faible est aujourd'hui perçue par sa complexité, par la difficulté des procédures, par la difficulté d'accessibilité, comme en réalité celui qui a du temps, celui qui a de l'argent, celui qui a des relations, a une capacité énorme de réussir à imposer la loi du plus fort par rapport au plus faible. Donc il y a un sentiment d'inéquité très fort, un sentiment d'injustice et un sentiment surtout que le système se protège plus que l'individu, et que le principe de précaution et le principe de responsabilité est aujourd'hui plus au profit du respect des procédures qu'au profit du respect de l'individu. et qu'un outil de régulation qui n'a pas à subir ce principe de précaution, qui n'a pas à subir ce principe de responsabilité, qui peut se poser une question, c'est la loi, mais est-ce que c'est juste, est aujourd'hui, en tant que médiateur, quelque chose d'extrêmement important dans la pacification des relations sociales, et que c'est peut-être un élément auquel je n'avais pas pensé, et qui m'a été mis en avant par la présence des délégués que je souhaitais dans les prisons, et que le directeur des BEMET m'indiquait, par exemple, que la présence du délégué du médiateur dans les prisons, ainsi que l'accès au droit, a fait baisser de 40% les faits de violence, parce que tout simplement, quand on veut exprimer, quand on pense être dans son droit, et que personne ne vous écoute parce que c'est comme ça, que vous n'arrêtez pas de faire des parcours du combattant pour accéder à votre droit, fait qu'à un moment donné, vous êtes extrêmement préoccupé par la défense de votre droit et que vous allez au-delà, quelquefois, du raisonnable. Et que cet outil de régulation, qui est une autorité indépendante, qui vous facilite l'accès au droit, et qui vous permet ensuite de vous dire ce qui est juste par rapport à votre situation, fait que nous avons des lettres de remerciement parce que nous avons fait la pédagogie du non, en disant « vous avez tort, et voilà les raisons pour lesquelles vous avez tort, merci de nous expliquer les décisions administratives », que plus de 50% de mes demandes de rendez-vous sont des demandes d'information au droit, nous sommes dans une société de droit où les gens ne connaissent pas leurs droits, et l'on voit bien que nul n'est censé ignorer la loi, est un facteur de sanction pour le juge, mais tout le monde doit avoir accès aux droits, ce qui est une formidable source d'inégalité, et que les outils de régulation que peuvent être les autorités indépendantes, mais que devrait avoir normalement l'administration, fait que, un outil de régulation permettant de faire bouger les choses est peut-être aujourd'hui plus intéressante que je ne l'imaginais, car j'obtiens aujourd'hui plus de réformes en tant que médiateur qu'en tant que ministre de la réforme de l'État, tout simplement parce que mon analyse n'est pas porteur de lobbying, n'est pas porteur de conflit d'intérêts particuliers, mais tout simplement de dire « cette situation me paraît injuste, voulez-vous la corriger ? Il n'y a pas un pouvoir politique ou il n'y a pas un pouvoir administratif qui ne cherche à corriger les injustices ». L'élément aussi le plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui, puisque j'ai un pouvoir de proposition de réforme, c'est que plus de d'un tiers de propositions de réforme me viennent des administrations elles-mêmes. C'est-à-dire, une des questions de fond que nous devons nous poser, c'est comment se fait-il que toute la chaîne administrative subit le poids des procédures, engoncée dans une responsabilisation qui n'est plus aujourd'hui d'interprétation, et qui fait qu'ils attendent du médiateur des recommandations en équité sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour pouvoir introduire un peu de bon sens. Et quelquefois aussi demander à ce que l'intendance puisse s'adapter à des situations qu'il considère comme injustes, mais qu'il n'arrive pas à arbitrer car l'interministériel fonctionne mal. Je vous donne un seul exemple, puisque j'ai un pouvoir d'inspection. Je suis allé visiter l'administration de l'État civil à Nantes, puisque nous avions beaucoup de réclamations sur des difficultés qu'avaient un certain nombre de personnes à renouveler leur carte d'identité, notamment par les cartes d'identité nouvelles. Et notamment parce qu'ils étaient dans l'incapacité de justifier de leur origine française, même s'ils étaient porteurs de la Légion d'honneur, bâtonniers du barreau de Paris, général d'armée, décoré, etc., etc. Et à ma grande surprise, j'ai découvert qu'il y avait un monsieur qui, légalement, avait 66 femmes et 111 enfants. Tout simplement parce que les tribunaux de grande instance n'intervenaient dans l'état civil que sur leur domaine de juridiction et qu'aucun n'était connecté entre eux et qu'il suffisait d'une connexion informatique, ce que nous avons pu faire aboutir auprès du procureur général de Nantes pour que cette situation soit aujourd'hui impossible. Et je peux vous donner toute une série d'exemples pour faire en sorte que la loi a beau être une bonne loi, si elle est mal appliquée, et si ensuite la mobilité des personnes fait que les connexions, nous sommes dans une économie en réseau, dans une économie de mobilité, et qui fait qu'aujourd'hui, paradoxalement, la circulation des marchandises a subi toutes les levées d'entraves sur l'espace européen, les barrières juridiques ont été jamais aussi importantes dans la mobilité des hommes, par leur mariage avec une étrangère, une filiation, un patrimoine, etc., etc. Et l'on voit bien que le regard purement hexagonal du pouvoir administratif et politique fait qu'il peut y avoir l'intérêt d'avoir un organe un peu distancié par rapport à tous ces intérêts décisionnels, permettant d'avoir un lieu d'observation et un lieu de régulation. C'est aussi intéressant par rapport au principe de vous évoquer. Et c'est une question que nous nous sommes souvent posées, on voit bien l'intérêt qu'en tant que médiateur, je ressens d'être une autorité indépendante, et en même temps, rapidement, c'était une de mes premières décisions, j'ai réuni un certain nombre d'autorités indépendantes pour voir quels étaient les principes qui les guidaient, quels étaient leurs positionnements par rapport aux autorités de l'État. Et les questions que nous nous étions posées, c'est de dire, est-ce que tout compte fait, les autorités indépendantes sont un renforcement de la citoyenneté à un moment où je parle d'un danger grave pour la société, du recul de cette citoyenneté, donc de l'acceptation de devoir par aujourd'hui la désillusion que l'on a par rapport aux utopies politiques et aux utopies collectives. Je ne crois plus à la réussite collective, donc je n'accepte plus les devoirs au profit de ce collectif. Je demande au collectif de m'accorder des droits. Nous nous sommes posé la question de savoir si c'était pas un risque d'éclatement de l'action publique, une rupture de cohérence qui était aussi aujourd'hui un facteur de fragilisation de la gouvernance collective à un moment donné où elle en a plus grandement besoin. Et là, c'est un souci probablement de rationalisation auquel nous devons être les uns et les autres en réflexion, puisque l'on voit bien qu'à l'instar, contrairement à d'autres pays étrangers, et c'était la thèse que j'ai développée auprès de la commission de Balladur, et mes propos n'ont rien à voir avec l'actualité. Mais je pense que plus la morale individuelle recule, plus la responsabilisation éducative de toutes les cellules, qu'elles soient religieuses, familiales, entrepreneuriales, recule, plus nous risquons d'aller vers une société de plus en plus répressive, en oubliant que la sanction, c'est l'échec d'une éducation. Et qu'il faudra nous réfléchir avec les dangers que va rencontrer la collectivité sur le plan de la pandémie médicale, sur le plan du terrorisme, sur le plan de la violence que l'on peut faire au travers de ces individus, plus les pouvoirs collectifs vont être extrêmement demandeurs d'autorité et que la légalité pourra engendrer des problèmes un peu de coercitif. Et plus il faudra équilibrer ça par des autorités indépendantes permettant de garantir les libertés individuelles et le droit des individus. Ce fut, par exemple, la réflexion que nous avons menée sur le contrôleur extérieur des lieux privatifs de liberté, et que je crois que plus le pouvoir politique dans l'ensemble des pays sera nécessairement dans l'obligation d'affirmer sa puissance sur un certain nombre de domaines, plus il faudra en équilibre des autorités indépendantes garantes de la liberté individuelle et de la dignité humaine. Et c'est la raison pour laquelle j'avais proposé à ce que l'on réfléchisse à la rationalisation des autorités indépendantes et qu'en ce qui m'ont concerné, de faire évoluer la médiature de la République vers un défenseur des droits fondamentaux en y incluant le défenseur des enfants, en y incluant le contrôleur extérieur des lieux privatifs et peut-être d'autres. Parce que la France a eu le génie de multiplier les autorités indépendantes et de ne pas les mettre en synergie et en complémentarité, comme si l'on avait une suspicion que les autorités étant un contre-pouvoir, il fallait diviser pour régner, et que plus on multipliait les autorités indépendantes, plus on affaiblissait leur contre-pouvoir, leur capacité d'interpellation. Et je crois qu'aujourd'hui, notre société a besoin de transparence, et que l'opacité administrative est quelque chose qui dessert l'administration et qui dessert le pouvoir politique. Que l'autorité indépendante ne veut pas dire l'irresponsabilité, la première chose que j'ai faite, puisque la médiature n'avait pas de comptable public, par exemple, fut d'aller à la Cour des comptes pour dire que tant qu'il n'y aurait pas de comptable public à la médiature, c'est le médiateur qui, à titre privé, était responsable de l'argent engagé par la médiature, car il ne peut pas y avoir d'argent public sans responsabilité. Et que la deuxième chose, c'est que j'ai demandé aux parlementaires de venir vérifier la totalité de la gestion de l'autorité indépendante. Et quand j'entends certaines autorités indépendantes se réfugier derrière leur indépendance pour refuser l'accès à la transparence, c'est quelque chose d'absolument anormal. Je crois que notre société a besoin, au contraire, de responsabilisation. On ne peut pas demander la responsabilisation individuelle et de cultiver l'opacité administrative. Derrière, on pourrait camoufler son irresponsabilité. Je crois qu'aujourd'hui, assumer ses responsabilités, c'est afficher ses choix, afficher ses moyens et accepter que quelqu'un vienne vérifier tout cela au nom de l'intérêt collectif. Deuxièmement, on ne peut pas revendiquer des pouvoirs et ne pas accepter de contre-pouvoirs. Et ce qui me paraît aujourd'hui tout à fait important, c'est que les autorités indépendantes doivent aussi faire cet effort de rationalisation, de transparence et de justification des combats qu'elles mènent. C'est la raison pour laquelle, dans leurs moyens, il importe de réfléchir aussi à la dépendance, paradoxalement, des moyens logistiques que peut représenter celui auquel on pense tout de suite, c'est l'aspect budgétaire. Paradoxalement, c'est pas celui auquel je pense en premier, puisque plaie d'argent n'est pas mortel. Mais celui que je pense en premier, c'est si vous avez à votre disposition des agents issus de l'administration, comment faire en sorte de protéger leur carrière s'ils doivent émettre un avis négatif sur leur administration? c'est un sujet extrêmement préoccupé. Comment protéger le fonctionnaire dans la gestion de ses intérêts, si ses intérêts individuels sont remis en cause, parce qu'il oserait, contester son administration d'origine. Et l'on voit bien que l'indépendance passe aussi par la façon dont on s'occupe de celles et ceux qui pourraient être éventuellement victimes de cette indépendance. L'on voit bien à quel point c'est un sujet qui est loin d'être négligeable. Et ce qui est un drame d'ailleurs de l'administration française, nous l'avions souvent évoqué, que quand on fait carrière à l'Europe, qui devrait servir normalement les intérêts de l'Europe et accessoirement de la France, on voit bien qu'aujourd'hui vous êtes pénalisé dans votre carrière et que la France paradoxalement est cruellement absente dans l'administration européenne à cause justement de cette incapacité de gestion des ressources humaines qui permet de préserver l'intérêt général. Voilà ce que peut-être je voulais dire sans du tout avoir la prétention d'avoir peut-être répondu à vos questions sur la désignation. À l'évidence, je suis de ceux qui pensent à l'équilibre des pouvoirs. J'ai été nommé par le président de la République, par le Conseil des ministres sur proposition du président de la République. Ça pose évidemment une suspicion à l'égard de celui qui vous nomme. Mais pour reprendre un monsieur pour lequel j'ai beaucoup de respect, il me disait... Une autorité indépendante avec un responsable à sa tête indépendant et une administration servile fera quelque chose de servile. Une administration indépendante avec à sa tête un responsable servile fera probablement quelque chose de servile. Mais un responsable indépendant avec une administration indépendante, c'est peut-être aussi quelque chose de dangereux. Donc aujourd'hui, on voit bien que ça n'est pas le statut qui est important, c'est la façon dont on s'en sert et la façon dont on l'use. Et donc, sur cette désignation, je suis pour l'équilibre de la désignation en désignation président de la République, Conseil des ministres, équilibré par 2/3 du pouvoir parlementaire. Soyons attentifs à des situations que moi j'ai rencontrées dans un certain nombre de pays où l'on voit qu'il y a des pays qui émanent directement des partis politiques et par incapacité de choisir, ont choisi 5 médiateurs issus chacun de leur parti politique, on voit bien quel est leur niveau de dépendance. C'est quelque chose qui me paraît extrêmement, extrêmement préoccupant. Donc sur les désignations, je suis pour cet équilibre de désignation. Sur la problématique de personnalisation, ce qui est mon cas, je suis nommé de façon irrévocable pendant 6 ans et je ne peux être condamné ni pour les propos ni pour les actes que je commets. Ma grande angoisse, c'est si je ne suis plus psychologiquement en mesure, quel est le pouvoir qui peut me freiner par rapport à ça. Et donc tout pouvoir doit avoir un contre-pouvoir et il faut éviter, quand on a la personnalisation d'une telle institution, il faut immédiatement mettre en place un contre-pouvoir au nom de l'intérêt général permettant de réguler tous les excès. Je peux demain avoir un accident de quelque nature que ce soit ou une évolution sectaire ou... Et donc aujourd'hui il faut aussi que la République se protège. On dit toujours ce que les hommes font du pouvoir, jamais assez ce que le pouvoir fait des hommes. Et donc la dérive du pouvoir doit être aujourd'hui au cœur de nos problèmes de désignation. Sur les pouvoirs de sanction, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet sur les autorités indépendantes ou administratives indépendantes, parce que l'on voit bien que l'efficacité de celles-ci passe par leur pouvoir. Et donc il y a un pouvoir d'influence, ce qui peut être le cas un peu du médiateur, qui a un pouvoir d'injonction, qui a un pouvoir de sanction, pour qui a un pouvoir d'inspection, même si on pourrait le faire évoluer. Mais l'on voit bien que c'est déjà, il y a un débat. Certains me disent, mais médiation et injonction sont presque incompatibles. Médiation est la solution douce, injonction est la solution forte. Et donc, comment peut-on concilier des choses douces et des choses fortes? C'est un sujet. Mais en même temps, une autorité indépendante sans pouvoir est quelque chose qui ne fait que des recommandations et qui, en fin de compte, sera immédiatement oublié par le pouvoir, immédiatement après. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut aussi réfléchir à l'aspect de sanctions pour certaines d'entre elles, que la halde ait des pouvoirs de caractère pénal ne me paraît pas choquant, puisque derrière, il y a une faute pénale sur la discrimination. Et donc, le médiateur, en ce qui me concerne, a aussi utilisé le pouvoir médiatique, qui est en fin de compte le pouvoir du XXIe siècle, et qui est aujourd'hui le pouvoir extrêmement, extrêmement puissant, même si je suis de ceux qui me préoccupent que la démocratie d'émotion ne l'emporte pas sur la démocratie de conviction. Enfin, il y a les autorités régulatrices, je pense à l'autorité des marchés financiers, ou peut-être même à d'autres, sur les problèmes de... Et c'est tout le débat qu'il y a du positionnement de l'appareil judiciaire par rapport aux outils de régulation. C'est clair que le pouvoir du consommateur créera un débat politique nécessaire sur les class actions. Et donc, faut-il aller sur les class actions au profit ou au détriment de l'efficacité économique? Je n'en sais rien. Ou faut-il que l'outil de régulation permette une alternative à cette class action? La médiation, les autorités indépendantes peuvent être aussi un mode alternatif à la résolution des conflits. C'est un sujet qui n'est pas neutre, puisque l'on voit que dans l'espace européen, une des thèses économiques consiste à dire que plus les volumes vont se développer, plus les marges des entreprises seront faibles, et plus il faut trouver des lieux alternatifs de résolution des conflits rapides et peu coûteux, d'où les instances de médiation. Et l'on voit bien qu'aujourd'hui aussi, au niveau administratif, les outils de régulation pour améliorer l'efficacité de la décision administrative sont des outils tout à fait intéressants, et nous avons un problème de thrombose judiciaire aujourd'hui, puisque les recours administratifs et les recours de la Cour européenne et les recours des tribunaux posent des vrais problèmes de fragilisation des entreprises, mais aussi de fragilisation décisionnelle des autorités indépendantes. Dernier point sur lequel nous avons, à niveau de la Commission Balladur, fait la proposition pour l'évolution du médiateur, ce fut la saisine du Conseil constitutionnel a posteriori, pas a priori, et éventuellement la saisine du Conseil d'État. Alors, on voit bien que beaucoup de recommandations en équité de la part de l'administration sont mises en réserve tant que le Conseil d'État ou la Cour d'appel n'a pas pris définitivement position. Et on voit bien que cette attente d'une jurisprudence ou d'une lecture jurisprudentielle de la part de la plus haute autorité juridiction administrative est un facteur de délai qui est extrêmement préjudiciable pour le contribuable, pour l'usager, pour le citoyen. Et donc le fait de pouvoir, pour le médiateur, saisir le Conseil d'État pour avis, permettant à l'administration d'avoir la lecture jurisprudentielle de la directive, de la circulaire ou du décret, met le doigt sur un des intérêts d'une autorité indépendante qu'est le médiateur par rapport à des situations dans lesquelles nous avons constaté que la décision politique que l'on avait dans les débats parlementaires ou dans la rédaction de la loi ne se sont pas retrouvées dans les décrets d'application et dans les circulaires. Et qu'il y a un détournement de la volonté politique, que l'on accepte ou que l'on n'accepte pas la décision politique, par des circulaires ou par des décrets qui ne correspondent pas du tout à l'esprit de la loi. Et c'est la raison pour laquelle c'est aussi un sujet sur lequel une autorité indépendante, par rapport au pouvoir administratif ou par rapport au pouvoir politique, n'est pas inintéressante. Enfin, ce qui n'est pas répréhensible, ça fait partie de la nature des choses, quand je disais que le système se protège et ne protège pas l'individu, nous nous sommes rendus compte souvent que, notamment dans les problématiques de santé, nous sommes en train de réfléchir avec la Haute Autorité de Santé sur un certain nombre de sujets, l'on voit bien qu'aujourd'hui, dans l'aspect décisionnel de notre société dite moderne, l'ensemble des décideurs, quels qu'ils soient, qu'ils soient de caractère privé, de caractère administratif, de caractère politique, vont devoir prendre des décisions dans des domaines de plus en plus compliqués et dans lesquels ils seront de plus en plus incompétents. Et donc le procès à faire de celui qui affiche la décision est certes sur sa responsabilité, mais ne doit absolument pas occulter tout ce qui a été la procédure d'élaboration de la décision. On voit bien que quand on a fait le procès du juge Burgot, ce qui était intéressant à faire, c'était pas tant le procès de la personne que le procès de la procédure qui a permis à Burgot d'élaborer sa décision. Et que l'on voit bien qu'un chirurgien a parfaitement compris que quand il prendra une décision, ce qui est important, c'est de s'appuyer sur des expertises qui lui permettront d'éclairer son choix. Et qu'aujourd'hui, par exemple, un des sujets qu'en tant qu'autorité indépendante, je peux me permettre de faire, puisque l'impertinence est aussi compatible avec l'indépendance de l'autorité, ce qui n'est pas toujours le cas pour un décideur politique qui doit penser à son électorat, qui doit penser à la proximité. Vous savez, on a aujourd'hui, dans l'équilibre des pouvoirs, il faut réfléchir au fait que le pouvoir décisionnel politique va de plus en plus être raccourci dans son espace temporel et dans son espace spatial. La brièveté du mandat fera qu'il faudra un retour d'investissement de l'action politique à 5 ans. Et la proximité des lobbyings fait que ça va être une action politique risque d'être de plus en plus proche géographiquement et de plus en plus proche temporellement. Au moment où notre société a un déficit de vision, et il faut avoir une vision mondiale et une vision à moyen terme. Et l'on voit bien que mettre à côté de le décideur politique, du décideur économique, des autorités de régulation permettant de pouvoir reculer cet espace temporel et spatial est un élément tout à fait intéressant qui n'est pas négligeable. C'est un des sujets sur lesquels actuellement nous travaillons à l'échelon international avec un certain nombre d'autorités indépendantes. Est-ce que les autorités indépendantes peuvent être un outil de bonne gouvernance? Et je crois que oui. Et deux, peuvent être un outil de régulation entre le pouvoir collectif et l'exigence individuelle au travers de l'équilibre entre les contraintes collectives et les libertés individuelles.
Vous venez d'entendre l'intervention de Monsieur Jean-Paul Delevoye, médiateur de la République, invité par l'Académie des sciences morales et politiques le 27 novembre 2007.